Radio.
Le Centre méditerranéen de création cinématographique a été inauguré il y a 2 ans à Font-Blanche. Depuis, il a permis la réalisation de plusieurs films et à de jeunes talents régionaux, bien sûr, de s'exprimer.
Être cinéaste aujourd'hui n'est certes pas une sinécure, surtout dans la période probatoire. Les jeunes qui se lancent dans cette carrière sont mis en face de réalités très dures. Pour que notre région puisse s'exprimer par le film, il fallait qu'une expérience soit entreprise. René Alliot a eu cette initiative courageuse. En créant le CMCC, a-t-il permis la concrétisation d'un rêve?
C'est d'un coup une ouverture, c'est une perspective, c'est peut-être 10 ans gagnés. Par rapport à ce qu'on cherchait à faire dans cette région.
Voilà, vous ne vivez pas que du cinéma, il faut bien le
préciser. Non, ça, je crois que c'est pas possible, ça serait pas possible dans cette région vraiment de vivre complètement du cinéma, et ceux qui essayent même maintenant ont beaucoup de difficultés.
Ça m'a permis d'aboutir déjà à un premier projet, mais ça m'a permis surtout de rencontrer des gens, de me conforter dans mon envie de faire du cinéma, de continuer à faire du cinéma.
Les principaux objectifs du CMCC, favoriser les recherches et les créations de cinéastes régionaux, mettre à leur disposition un minimum de moyens techniques, aider enfin à promouvoir leurs œuvres. Parmi les projets de films suivis par le centre, ceux de Jean-Pierre Daniel qui prépare un long métrage.
Ce qui m'intéresse, c'est d'abord d'essayer de vivre quelque part, longtemps, dans un endroit, dans le cas présent, c'est dans cette ville, dans la ville de Marseille qui me fascine, qui est la ville dans laquelle j'ai toujours vécu. Et d'abord, c'est donc d'essayer de rester longtemps dans une ville et d'essayer de faire que le cinéma que l'on fabrique viennent de cette vie et de ce temps passé longtemps, aussi bien dans un espace, dans une lumière, que parmi des gens.
On est pas mal, on peut se faire tracer, on traverse la forêt.
La forêt, on fait des petits éléments comme ça, on croit que c'est une forêt. Quand on voit une fleur, on dirait la tour Eiffel, je sais pas moi. Plein de phénomènes comme ça. Quand on arrive au milieu du castel, là, on voit des gens, mais nous, on croit que c'est des géants.
Alain Huguetto, jeune cinéaste aixois, a choisi une démarche totalement différente avec le cinéma d'animation. Il a tourné son premier court-métrage dans les locaux du CMCC à Vitrolles, L'Échelle. Un travail très personnel. Huguetto essaie d'exprimer une idée à l'aide de personnages modelés dans une pâte translucide.
J'avais commencé par faire un peu de photos, ensuite j'ai fait un peu de sculpture, et le fait de faire de la sculpture, c'était le travail sur la matière, c'est faire avancer les personnages dans des attitudes.
En quête d'un cinéma indépendant, bienvenue à Radio Galère pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, l'histoire, une lumière sur l'histoire du Centre méditerranéen de création cinématographique. On a 3 invités exceptionnels aujourd'hui sur notre plateau, Jacques Allaire, Jean-Pierre Daniel et Thérèse Consolo, pour refaire surgir de loin cette histoire importante de ce centre de création cinématographique en région. On voulait faire cette émission là-dessus, on y tenait énormément avec David, avec Laurent Antivol et puis moi-même, parce que en tant que jeune cinéaste, c'est vrai que de s'interroger sur l'histoire, pour nous, c'est pas simplement raconter une histoire du passé, mais c'est aussi s'interroger sur le présent, bien entendu. Cette histoire est précieuse pour nous en tant que jeune cinéaste, elle est précieuse à de multiples endroits, puisque cette époque de Font-Blanche, du CMCC, a été très très importante dans la création cinématographique en région. Nous sommes en région ici au même titre que les anciens cinéastes qui ont parcouru ce temps. Donc nous allons essayer ensemble avec eux, avec nos invités, de reparler de cette période. Alors, pour commencer, il me semble peut-être une bonne idée de demander à Thérèse Consolo, qui est avec nous, de peut-être parler un petit peu de qu'est-ce qui se passait exactement en fait au centre méditerranéen de la création cinématographique. Quelle était l'ambiance à l'époque. Il y avait beaucoup de cinéastes qui sont passés par là, qui ont fait leurs films. Donc Thérèse, peut-être tu pourrais un petit peu nous relater. Thérèse, tu as été donc secrétaire aux côtés de Jacques Allaire au CMCC. Donc tu étais vraiment le relais entre les cinéastes, leur travail et Jacques Allaire. Est-ce que peut-être tu peux nous dire un mot?
Et René Alliot, je l'ai ajouté. Et oui, j'allais ajouter et René Alliot, Jacques Allaire et René Alliot. Les cinéastes, ils venaient, c'était un va-et-vient tous les jours. Il y avait quelqu'un qui venait, ils déposaient leur projet ou ils venaient regarder des rushs ou il se passait plein de choses dans une journée. Donc, je sais pas, on va voir au cours de la conversation,
d'accord,
je vais raconter ça un peu plus après.
Ok, alors.
Toi, Thérèse, déjà, tu venais pas du cinéma?
Ah non,
aussi,
pas du tout.
C'est cette particularité qui, je pense, aussi dit la particularité de René Alliot.
Pas du tout. Moi, j'ai rencontré René Alliot parce que j'avais d'abord rencontré Jacques Allaire. Et c'est Jacques qui m'a amenée dans cette aventure-là. J'étais dans le social, un centre social, la Morolette, à Marseille, là où René a tourné Retour à Marseille, d'ailleurs. Et voilà. C'est vrai qu'on a cette particularité avec Jacques. On vient tous les deux du social, de ce milieu-là.
Alors donc, on arrive aux origines de ce lieu. Comment le CMCC s'est construit et quelle a été sa mission au départ?
Et quand?
Là, je vais donner la parole à Jacques parce que c'est lui qui m'a amené, c'est lui qui a commencé. Hein, donc, il vous dira ça mieux que moi. Voilà.
Il y a le micro qui grince.
Je pense que c'est important de passer par la lecture d'un texte qui est ce qui a conduit la réflexion de René pour la création de ce centre. C'est un texte qui précède l'installation à Fontblanche et le démarrage du CMCC et qui vous donne l'essentiel de l'idée directrice. Hein, avant qu'on trouve les financements, c'est ce texte qu'il déposait, qu'il a déposé à Defer, chez Defer, qu'il a déposé au ministère à Paris, et qui a reçu un agrément tardif, mais qui a permis de mettre en place après la structure.
Il date de quand, ce texte?
76-77. Le cinéma connaît aujourd'hui une évolution qui développe production et distribution dans des formes industrielles et fixe le spectacle cinématographique autour de genres très déterminés de grande consommation. En même temps, le bouleversement entraîné par l'apparition de supports magnétiques de la télévision, des nouvelles possibilités de diffusion de l'objet filmique qu'il doit d'abord réaliser sur pellicule ou sur la bande, n'a pas fini de retentir sur les modes de fabrication et de financement et sur la création elle-même. Cet état de fait rend extrêmement difficile la production et la réalisation de films différents dans leur forme et leur conception. Des stéréotypes cinématographiques ou télévisuels actuels en leur faisant porter un risque financier écrasant. Pourtant, c'est dans l'existence au sein de la production nationale d'un courant de création indépendant, avec les recherches, les essais qu'il impliquerait, leurs réussites et parfois aussi leurs échecs, l'accès plus facile qu'offrirait à l'expression filmique pour des auteurs nouveaux que peut se gager la meilleure part de la vitalité et du devenir de cette production, y compris du point de vue de son développement commercial et de sa compétitivité sur le marché international, et qui ne peuvent reposer en effet que sur la qualité des œuvres produites, qualité dont le talent des auteurs d'abord et leur expérience ensuite forme une part essentielle. Comment tourner cette contradiction? Ce pourrait être en rendant plus facile une production plus artisanale et pas moins artistique, au coût moins élevé et où les films de cette sorte, moins isolés et donc moins vulnérables, appartenant à un ensemble mieux armé pour se faire reconnaître par son public potentiel, rechercherait avec ce public une relation plus organique. Bien entendu, il ne s'agirait pas de films visant à concurrencer dans ses effets ou ses moyens le cinéma produit dans le cadre de l'industrie cinématographique. mais qui s'efforcerait au contraire d'explorer les voies d'une production artisanale, à l'exemple de certaines expériences isolées, françaises ou étrangères. Il me semble que l'existence de centres cinématographiques régionaux permettrait cette production et cette recherche. Je voudrais donner ici les raisons de cette assertion et expliquer aussi pourquoi la création d'un tel centre dans le sud de la France me paraît constituer une expérience pilote. Donc c'est à partir de ce texte préliminaire qu'un certain nombre de centres régionaux, cette idée-là a fait école. Et très vite, se sont développés à travers tout le territoire national une demande à peu près du même type, portée par des gens comme Vautier en Bretagne, les Le Garec. Les Le Garec, Guy Cavagnac plus tard à Toulouse, Grenoble et Le Havre. Voilà ce qu'était ce qu'a fait naître ce texte de René, parce qu'il l'a distribué un petit peu partout et il y en a plusieurs qui se sont saisis de cette idée.
Et peut-être ça serait bien pour les auditeurs qui ne connaissent pas René Alliot qu'on sache que c'est un cinéaste artiste qui a monté ce centre, qui a voulu.
Oui, oui. C'est même ça l'originalité, c'est que le centre a été l'idée, et une idée forte d'un créateur. René est essentiellement un cinéaste. Quand il arrive avec cette idée, il a déjà une dizaine de films derrière lui, et pas les moindres. Je peux quand même citer, pour ceux qui ne le connaissent pas, La vieille dame indigne, Les Camisards, Pierre et Paul, Rue de journée pour la reine. Je vais vous donner toute la filmographie de René. René est en même temps aussi un scénographe. C'est quelqu'un qui a travaillé dans la grande décentralisation de l'après-guerre et qui a mené une action chez Planchon à Lyon, qui a été décorateur chez Planchon, c'est donc il était scénographe. Il a continué jusqu'à la fin de sa vie à travailler la scénographie et puis il a aussi beaucoup écrit.
Mais ce qui me pose question, c'est juste René Alliot, dans sa lettre qu'il écrit, il parle d'un cinéma qui est commercial et de l'histoire de ce cinéma. Il parle de la nécessité aussi de l'existence d'un autre cinéma qui définit comme indépendant. Et René Alliot, lui, était où par rapport au cinéma qu'il faisait, lui ?
René a quand même un peu aussi rêvé d'un cinéma du centre, mais il était quand même dans un cinéma de la périphérie, un cinéma qu'on dirait aujourd'hui d'auteur, quand même.
D'accord.
Jean-Pierre.
Peut-être, je pense que quand il fait La vieille dame indigne, il le fait, on pourrait dire, dans la marge, d'une certaine façon. C'est un rêve, c'est une volonté de commencer à vouloir raconter des histoires, alors qu'il est en plein grande maturité de son travail de scénographe, en particulier, effectivement, comme l'a dit Jacques, avec Roger Planchon. Et que le fait de s'emparer d'un texte de Brecht, avec toute la réflexion qu'il faisait à cette époque sur cette lecture des choses à travers les textes de Brecht, l'envie qu'il avait de se coltiner cette réflexion-là et en même temps peut-être de la dépasser, ou dans tous les cas, je crois que son aventure, comme le dit Jacques, c'est effectivement une aventure d'auteur et plutôt dans la marge. Il se trouve que La vieille dame indigne, les auditeurs plus jeunes ne le savent pas, mais moi je fais la comparaison, le succès de La vieille dame indigne, avec en particulier la chanson de Jean Ferrat, qui a été une espèce de formidable musique qui a été connue, chantée par tout le monde, c'est, toute proportion gardée, le même succès étonnant qu'a pu être Marius et Jeannette à un moment, alors qu'on ne l'attendait pas. Je parle en termes d'écho populaire, je ne compare pas du tout les films. Et donc, je pense que ça a amené René en plein au centre. Je veux dire, il s'est retrouvé avec... Moi, je pense que c'est un peu comme La guerre des boutons, qui a été aussi un espèce d'énorme succès et qui a transformé l'itinéraire de celui qu'il avait fait à l'époque. Et donc, je pense que La vieille dame indigne l'a amené sur un territoire. Et il n'a pas cherché à le continuer, puisque je crois que ses autres films, en particulier ceux qu'il a fait à Marseille, je pense pas au Camisard, hein, Jacques, mais Pierre et Paul, comment il s'appelle, les titres des deux, trois films qu'il a fait après à Marseille, je les oublie maintenant.
L'une et l'autre,
c'est beaucoup plus tard. Enfin bref. Non,
mais tu sais, ceci dit, cette préoccupation du territoire occupe l'ensemble de l'œuvre de René.
D'accord. Hein, d'accord.
Pas le territoire marseillais. Hein.
Non, le territoire dans le sens.
La narration et le territoire.
La narration et le territoire. Et outre cela, il y a aussi une préoccupation de parler d'une partie de la population à travers ces films.
Mmh. Hein, oui, et parler du peuple entre.
C'est pas si évident que ça. Hein.
Non.
Il parle, qui dirait de façon péjorative, presque les petites gens ou des choses comme ça. Mais
c'est plus près de cette
oui.
C'est quelque chose comme cela, si tu veux. Hein. Mm. René, il parle de sa famille, il parle de son histoire, il parle des gens qu'il connaît. Mm. Et ça occupe l'ensemble de son œuvre. Bon, outre ça, pour revenir au CMCC, tout à l'heure, j'entendais les cinéastes. Il n'a jamais considéré les gens qui venaient le voir avec leur projet comme des cinéastes. C'était des commençants.
Oui, des commençants. D'ailleurs, c'est un très beau mot.
Des commençants.
Maintenant, on dit débutants ou amateurs.
Mais ils avaient tous potentiellement, pour lui, la possibilité d'être un véritable talent en devenir.
D'accord.
Et l'idée directrice de René, quand il fonde le centre, c'est de confronter ses talents commençants à la réalité de ce qu'est le travail
d'un
genre qui doit être confronté à l'écriture, confronté à l'exigence de la production, à l'écriture, pour une œuvre de fiction, comme pour un documentaire, comme importe, peu importe. Et toujours se mettre, lui, en tant que créateur déjà un peu installé, en confrontation directe.
Avec ses commences.
Parlant d'égal à égal. Avec ses commences. Entre ménage et déjeuner.
Peut-être toi, Jean-Pierre, qui était aussi réalisateur, tu...
Bah écoutez, effectivement, moi je suis dans cette table ronde avec Jacques et Thérèse, à la fois témoin des tout débuts de cette aventure. Et je pense que Jacques a raison de prendre comme fondation ce texte et que tout ce qui s'est passé autour, à la limite, effectivement, ça peut être de l'anecdote et que c'est ce texte-là qui est fondateur. Et il est intéressant de le lire. Et je vois bien comment vous y réagissez tout de suite. D'un coup, vous entendez des choses en disant presque que c'est un texte qu'on pourrait écrire aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est touchant.
C'est ça. Et c'est vrai que ce que vient de dire Jacques aussi me paraît très, très important. Même si je pense que cette idée qu'il accueillait des commençants pour leur permettre de se retrouver éventuellement, leur mettre le nez dans la professionnalisation pour éventuellement leur faire qu'ils se confrontent à l'industrie des choses. Je pense que c'était beaucoup plus la deuxième chose qui a été dite, cette idée qu'il se mettait d'égal à égal, ou en tous les cas au même niveau de quelqu'un qui a une envie, qui est dans un itinéraire plus ou moins déjà développé. Et on rentrait en fait en échange avec un créateur. Moi, ce qui m'a vraiment complètement marqué de ma rencontre avec René, effectivement, je n'ai pas rencontré quelqu'un comme un producteur ou quelqu'un comme quelqu'un qui était le directeur d'un endroit où j'allais pouvoir éventuellement récupérer du matériel, du fric pour faire quelque chose. Je me suis retrouvé effectivement avec quelqu'un qui parlait du travail de création cinématographique. Et quand on amenait une idée, soit il a combattu, soit il l'a poussé. Et que je crois que ce qu'il a fait avec moi, d'une certaine façon, ce qu'il a fait effectivement avec Philippe Faucon, ce qu'il a fait avec Alain Huguetto, ce qu'il a fait avec toute une série de gens, Vincent Mortorana, des gens comme ça, de ceux avec qui on a vécu, a toujours été cette espèce d'échange. C'était un travail d'atelier, d'une certaine façon, un peu. Pour moi, c'est l'idée fondamentale du Centre Méditerranée en tant qu'atelier, en tant que lieu. C'était un endroit où, effectivement, la pensée se développait, s'échangeait, qui multipliait les occasions à son initiative à lui d'avoir envie de faire des tas de choses qui fassent que d'un coup la pensée puisse
Des séminaires, des rencontres.
Les séminaires, les rencontres, les moments où on projette quelque chose, il est dans la salle, il réagit. On vient de faire quelque chose, il te vient à côté, il te dit « je ne suis pas du tout d'accord, qu'est-ce que tu as fait là ?» et tout. Je veux dire, c'était quelqu'un de très... Je veux dire, il n'était pas discret dans sa manière d'être. Il est une espèce de présence forte. Et je pense que c'est la force du CMCC. C'était qu'il était au centre, il y avait un créateur. Et un créateur qui n'abandonnait pas son œuvre, qui n'abandonnait pas son geste créateur, qui le développait même au milieu des autres, et qui avait, ce que disait Jacques, cette capacité de se mettre en direct avec une pensée neuve, avec une hésitation, avec des démarches autres. Et juste par rapport au texte sur les innovations, je pensais à ça, je repensais à ça au moment où Jacques le disait. Une des choses, moi, j'étais pas directement comme tous les deux dans la vie directe du CMCC. Je continuais mon travail de conseiller technique et j'étais donc un peu avec eux, mais sans être directement dans le même opérationnel. Mais à un moment, René a eu envie qu'on aille plus loin sur le Super 8. C'était une époque où il y avait des ateliers Super 8 qui s'étaient développés, mais c'était toujours un peu bricolé. On n'arrivait pas à en faire quelque chose, ce Super 8. Et du coup, il a eu envie qu'on regarde si on pouvait arriver à le professionnaliser, le Super 8. C'est-à-dire à vraiment avoir des caméras qui soient vraiment synchrones, mais qui soient non bruyantes, ou comment on peut arriver. Et surtout, cette formidable complexité du montage en Super 8. Comment on pouvait arriver à avoir de vrais outils de montage en Super 8 et de pouvoir sonoriser du Super 8 comme on travaillait le 16.
Il y avait une grande importance à la question de l'outil.
Fondamental. Le travail sur l'outil, la réflexion sur l'outil. Pourquoi c'est Boviala qui a été cherché? C'est pas parce que c'était moins cher, mais c'est parce que c'était celui qui était le plus aujourd'hui à cette époque-là. Et encore, celui qui portait la question de l'outil cinématographique, de l'outil de la caméra au maximum.
Jean-Pierre Boviala qui a créé à Atone, oui. Et qui était un des fabricants de caméras les plus importants, oui. Toujours à l'heure actuelle, oui. Les caméras pour Godard, Rouge, dans les années 60.
Et donc les 70. Caméras du CMCC sont des caméras, les caméras 16 du CMCC sont des caméras Atone. Mm. Et il y a eu une volonté d'aller chercher les caméras Atone, même si elles étaient un peu plus chères éventuellement, oui. Oui, je veux dire. Mm. Mais de la même manière sur le son. Et sur le montage, moi qui ai vécu un peu cet itinéraire-là plus précisément, il a accepté l'idée de faire acquérir une table de montage qui était 16 Super 8, dont on pouvait changer le bloc, ouais. Et elle était synchronisée avec les défileurs 16 et 35 qui permettaient de faire du mixage. Et un défileur 35, 6 pistes, ouais. Synchrone avec la table de montage, ouais, qu'on est allé acheter en Autriche, ouais, parce qu'elle était insonore. Donc je veux dire, cette envie de René d'être plus près de ce qui pouvait permettre, ce que Jacques a dit tout à l'heure, une création dépendante, une innovation. Je veux dire que si à l'époque la vidéo avait été moins, elle était triste la vidéo à l'époque. Je parle en termes d'outils, mais avec les nouvelles machines qu'on connaît maintenant, les bandes montage qu'on voit, je veux dire c'est quelqu'un, il se serait passionné pour cette espèce d'innovation quoi. Enfin je sais pas.
Ben là justement à ce sujet là, je vais vous lire juste un autre bout du texte. Je ne veux pas vous saouler avec
Jacques Allaire lecteur ce soir. Voilà.
Jacques Allaire qui doit mettre son micro devant la bouche.
Resituer ce texte dans le temps. On est à la fin des années 70. Ouais.
C'est-à-dire dans le temps précise, parce que nous, on n'y était pas dans ce temps. C'est-à-dire...
On est en 77, 76, 77.
Ah, si pour être concret, naître, avant 1981, d'accord. C'est important de le dire ce soir. Voilà.
Nous vivons une époque de profond bouleversement dans l'ordre des idées et des mentalités. Dans tous les domaines, sous nos yeux, des façons d'être, des modes de vivre... de pensées sont en train de basculer à tout jamais dans le passé. Pourtant, ils ont encore quelque chose à nous dire. Ils sont porteurs de valeurs qui nous concernent encore et qui peuvent encore nous enseigner. Curieusement, notre cinéma, de ce fait de civilisation si frappant, ne rend pas le moindre compte, ne porte pas le moindre témoignage, n'en résonne pas. En même temps, ceux-là même qui incarnent ce passé, qui s'engloutit, connaissent et vivent déjà la civilisation audiovisuelle. La demande est latente chez eux, de parler, d'être enregistré, filmé, télévisé on dirait aujourd'hui, d'être enregistré, filmé, de mieux s'entendre et de se voir. Je crois justement que pour les productions d'un tel pour les productions d'un tel centre cinématographique saurait refléter ces phénomènes. La réalité et la culture propre à la région, l'implantation, plus elles auraient de chances de déboucher sur un marché plus large, national ou international. Je pense ici au cinéma suisse ou québécois, pour rester dans le domaine de la francophonie, tant il est vrai que c'est à travers le particulier que l'art témoigne le mieux sur la vie de nos semblables.
D'accord, c'est un beau... C'est quoi tous ces textes que tu nous lis ?
C'est le premier texte écrit par René.
C'est le texte qui a servi de préambule...
Pour présenter un peu le projet. Tout à l'heure, tu dis, bon, faut pas qu'on oublie, on est en 78, mais moi j'aimerais bien que tu me resitues au sens large le contexte politique, parce que dans cette histoire, on voit qu'il y a la volonté d'un homme, très très forte volonté, et qu'est-ce qu'il y a en face ou qu'est-ce qu'il y a avec ?
Qu'est-ce qu'il y a en face ? En face, il y a Giscard d'Estaing, hein. On sort Pompidou, De Gaulle, Pompidou, Giscard. Il se trouve qu'il y a un ministre de la Culture qui est pas certainement le plus mauvais encore à l'époque.
C'est Michel Guy.
Michel Guy.
Et qui succède à Jacques Duhamel.
Voilà.
Et qui succède à Jacques Duhamel, qui a été un ministre qui est pas très très connu, qui est très un ministre très administratif, qui n'est pas le flamboyant, si tu veux, de certains ministres de la Culture de la Ve République, mais qui a... Tous ceux qui ont travaillé ou qui ont vu, c'est quelqu'un qui a mis en place de façon structurelle les choses importantes. Le Fonds d'intervention culturelle est de cette époque-là.
Et cette époque-là.
C'est très D'accord. important. Ça veut dire que l'idée qu'à côté des financements normaux du ministère de la Culture à travers des subventions, à travers des dossiers, il y a la volonté de créer un espèce de fonds qui va pouvoir intervenir sur des projets... C'est des premières démarches. Il y en a eu d'autres depuis, d'accord. ou d'autres qui ont été abandonnées. Mais ce FIC a été un espèce d'outil d'intervention culturelle pour permettre des aventures un peu parallèles de se développer.
Alors, on n'a pas bénéficié du FIC. Mais par contre, pour la mise en place de ce projet, qui a été présenté à Gaston Defer, en même temps, à cette époque... On bénéficie d'un petit coup de chance, c'est qu'il y a une grande opération autour des rives de l'étang de Berre, une mission d'aménagement des villes nouvelles.
Villes nouvelles.
Avec un maître d'œuvre, qui est l'EPAREB, qui a des financements relativement conséquents et qui vient d'acquérir. Le domaine de Fontblanche, ça ne vous dit rien du tout, c'est un domaine qui se trouve à Vitrolles, qui est un immense domaine, qui était un domaine agricole, dont ils ne savent pas que foutre à l'époque. Et très vite, quand l'idée du CMCC arrive dans les oreilles de Fer, il y a des gens à l'EPAREB qui ont l'oreille sensible et qui vont tout de suite se saisir de la bonne idée. Je crois qu'à l'époque, Dumollier était encore à l'EPAREB. Et c'est l'un des premiers, justement, à avoir sauté sur le coup. Et les financements, les premiers financements, préfinancements, vont être ceux de l'EPAREB, ceux de la DATAR. Et il m'en manque un peu. Et la région qui n'est pas encore
pas
tout.
Conseil régional.
Conseil régional qui était en préfiguration, qui n'était pas encore une structure élue à l'époque. Voilà. Mais qui commençait à être mis en place. C'est 78 l'année.
En tous les cas, le rôle de Michel Merli se faisait au nom de la région.
Mais c'est en 81 que.
Non, avant.
Oui, mais en 81, qu'est-ce qui se passe ?
Ah, en 81, c'est autre chose. Là, on existe déjà, en 81.
Mais avec des petits moyens.
Avec de tout petits moyens. Mais on a déjà engagé les aménagements des Vitrolles. La grande salle de Vitrolles est engagée. Les aménagements des salles dans les anciens hangars à cochons ont commencé. La propreté des lieux... c'est fait. Il y a des groupes musicaux qui se sont installés dans la grande ferme. il commence à y avoir beaucoup de choses qui commencent à grenouiller à fond blanche. Là, il y a les troupes de théâtre, deux ou trois troupes de théâtre.
Il y a les grandes rencontres de musique méditerranéenne avec les Monjoy. Avec Monjoy. Groupe du chanteur occitan.
Alors, Jacques et Thérèse et Jean-Pierre, on a beaucoup parlé donc de la qualité en fait qui se faisait, la qualité créative donc au centre Fond Blanche. Ce que j'aimerais que vous nous disiez peut-être, c'est l'ouverture que ce centre a pu avoir vers le public. Et c'est un centre qui avait vocation de s'ouvrir donc à différentes régions, notamment en dehors de la région PACA, un petit peu ces centres méditerranéens quand même. À travers les séminaires et les colloques, il y avait une volonté comme ça.
Ah bah oui.
Alors est-ce qu'on peut revenir un petit peu ou expliquer en quoi ça consistait ces colloques et ces séminaires?
Dans la mesure où le premier colloque justement concerne la mémoire du territoire. Le territoire de la narration filmique qui va se aboutir très vite, je crois, à un projet autour de la confrontation de... Attends, le premier colloque, voilà, là j'ai un trou.
Le premier colloque, c'est le territoire de la narration filmique.
Territoire de la narration filmique avec le cinéma...
Pagnol.
Pagnol, bien sûr.
Ouais. Territoire marseillais, provençal, occitan, voilà, français,
absolument,
méditerranéen.
Absolument, Pagnol. Pagnol, c'est...
Et Pagnol
le
et
premier
le cinéma...
grand monsieur de la décentralisation, moi, c'est le Pagnol. Hein. Pas de l'éducation populaire, mais de la décentralisation.
Et après, quels grands cinéastes sont passés dans les séminaires, les rencontres?
Oula! Alors là...
Faites-nous rêver.
Si on commence à vous faire une...
Alors, ce que moi, je retiens, parce que je les ai admirés dans ce contexte-là, moi, à Fond Blanche, j'ai pu effectivement voir concrètement, et pas dans une promotion d'un film, voir concrètement exister Godard. J'ai pu découvrir... Pierre Perrault. J'ai pu découvrir Jacques Rosier. J'ai pu découvrir Jacques Demy.
Pierre
J'ai
Caste.
Pu découvrir... Oui, mais tu vois, je ne l'avais pas reçu. Pierre Caste. J'ai pu découvrir...
Paul Vecchiali.
Robert Kramer. J'ai pu découvrir Paul Vecchiali. Après...
Youssef Chahine aussi.
Youssef Chahine. Youssef Abdesalam.
Renaud Victor.
Jean Rouche.
Jean Rouch est venu à
Fond-Blanche. Je suis pas sûr.
C'était écrit sur un papier.
Sur un séminaire, me semble-t-il.
Peut-être, mais je le vois pas.
Non, un séminaire.
Alain Bergala aussi, qui est passé.
Jean Orange.
Alain Bergala, bien sûr.
Grand scénariste, Jean Orange.
Je crois que c'est un... Je pense qu'à l'époque, si tu veux, c'était une proposition... Il y en a eu combien de séminaires? Trois au moins, non? Vraiment les grands
séminaires, il y en a eu quatre.
Pratiquement les quatre grands séminaires, je pense qu'à l'époque, toutes les gens qui comptaient d'une certaine façon, si tu veux, dans la création cinématographique, sont passés là. Peut-être un peu moins ceux qui s'appelaient, qui avaient créé la nouvelle vague, qui étaient moins présents. En dehors de Godard, que d'autres. Mais je sais pas.
Et Rosier.
Mais Rosier n'a rien à voir avec la nouvelle vague. Il a à voir avec le cinéma de façon comme Jacques, non, comme Godard aussi. Mais je crois qu'il y a trois rencontres. Et c'est après, c'est des ateliers.
Il y en a qui vont pas être d'accord.
Il y a quatre rencontres. Il y a l'écriture. Il y a
c'est impressionnant, je veux dire, de ce point de vue-là. Et c'était chaque fois des moments où c'était pas quelqu'un qui vient, qui fait sa parole et qui reprend le train. C'était chaque fois des vrais temps de rencontres. Où on vivait, c'était au moins 3 jours ou 4 jours.
C'était ouvert à tout le monde ou fallait...
Non, je pense qu'on ne peut pas dire que c'était ouvert à tout le monde.
Non. Qu'on avait installée.
Thérèse, tu peux y aller. Hein.
Comme des offices au Vatican.
Au Vatican,
c'est-à-dire
oui.
Un grand, dans la grande salle, un triple gradinage en fer à cheval.
En fer à cheval.
Les paroles pouvaient se confronter d'égal à égal.
Absolument.
C'est-à-dire que vous pouviez parler à Philippe d'égal à égal avec Philippe Joutard, avec Peter, avec Marc Vernet, avec Serge Danet. Voilà, c'était ça le quotidien.
Et il venait par amitié pour René ou c'était le lieu qui...
Par croyance dans cette expérience.
Mais je crois qu'il y en a certains, c'est parce qu'effectivement, ces rencontres, ce lieu d'effervescence les faisait effectivement bander, qu'ils avaient envie d'en être.
Ouais, je crois.
Quand on lit les choses, on ressent ça.
Voilà.
C'est un lieu où il fallait
des gens comme, comme Oli, comme Bergala, vous en parleront toujours avec beaucoup de chaleur.
Et aujourd'hui, s'il y avait un lieu comme ça, vous... Est-ce que ça existe encore en France, un lieu comme ça?
Personnellement, je dirais non. Je ne crois pas qu'il y ait... Il y a eu des... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres aventures. Moi, j'en ai vécu d'autres, en particulier dans le travail de la diffusion du cinéma en direction des enfants, des choses qui sont passées, en particulier au Havre, des choses comme ça. Mais un lieu lié aussi directement à la création et où les questions qui étaient posées étaient des questions très complexes et très précises de l'acte créateur, on le retrouve. Je veux dire, ces débats-là se sont d'une certaine façon un peu enfermés dans l'université. Et... même dans les grands moments qu'on voit vivre aujourd'hui à la Cinémathèque française et autres, on ne retrouve pas cette espèce de côté. On débat ensemble, quoi, et on y va vraiment, tu
Est-ce
vois,
que
je veux dire, avec une simplicité. Quoi.
Vous avez conscience, Jean-Pierre Daniel, à cette époque-là, donc justement du retentissement du CMCC ailleurs qu'en PACA, par exemple. Est-ce que le CMCC était connu ailleurs
qu'en PACA ? Je crois qu'en France, en tous les cas, il était un point de repère évident. Hein.
D'un point de repère, parce que malgré les points de décentralisation dont on a parlé tout à l'heure, l'expérience du CMCC, elle, est incomparable. Parce que, à cause de l'engagement de René dans le quotidien du fonctionnement de cette structure.
Et de la prise de parole. C'est lui qui menait, d'une certaine façon,
et puis,
la pensée.
Parce qu'aussi, il n'a jamais abandonné son travail de créateur.
Absolument.
Ça, c'est... On en parlera un petit peu plus tard sur ce qui a été mis en cause sur la fin du CMCC, mais c'était ça, la richesse du CMCC.
C'était aussi que la forme et le politique n'étaient pas détachés. J'ai l'impression qu'il était autant abordé la production, la diffusion, que la création.
Enfin... Moi, je pense que de ce point de vue, par rapport aux enjeux actuels, si tu veux, j'entends ça, par exemple, la diffusion, même si dans le texte de René, à un moment, il l'évoque, je pense que la question de la diffusion des films... n'a pas eu le temps d'être posé en termes d'action. Je pense que ça dépasse. Ça dépend. D'abord, il a fallu que des films se fassent. Mais enfin, il y a déjà. Moi, chaque fois, je dis 40 courts-métrages au moins qui ont été faits.
65.
Donc, tu vois, ça veut dire que quand même, il y a eu 65 films.
C'est énorme. Mais, donc, en combien de temps
En trois ans. Tu vois. Alors, c'est des films qui ont trouvé plutôt leur place. Enfin, qui ont existé en termes de distribution et de diffusion, plutôt dans les festivals. Je veux dire que la question de permettre à ces films de trouver un autre espace de rencontre, par exemple, il n'y avait pas de relation avec les salles.
D'accord.
Pour moi, j'ai découvert les salles beaucoup plus tard et ça n'existait pas, les salles de cinéma, dans l'aventure qui était là. La télé était aussi très loin.
Ce qu'il faut dire, Jean-Pierre, aussi, je crois, par rapport à ça, qui mérite d'être souligné, il me semble, c'est que la qualité du CMCC était aussi parce qu'il y avait une qualité humaine aussi qui se jouait là, et que dans les rencontres possibles entre les cinéastes eux-mêmes, je pense que le lieu avait cette particularité, que les rencontres étaient effectivement possibles grâce au fait que vous arriviez à créer ces temps de rencontres, etc.
Pour moi, c'est l'essentiel. Aussi bien autant dans le cadre de ces trois grandes rencontres et des séminaires qui ont eu lieu, mais dans la vie quotidienne. C'était le fait que c'était un endroit où on savait que, d'abord, c'est un endroit où on pouvait, à un moment, avoir des gestes de création, parce qu'on était embarqué dans un travail de montage, ou que l'autre était embarqué dans un travail de montage, ou que René... Bon. Mais c'était tout le temps la possibilité, à un moment, de se retrouver, à pouvoir rencontrer des gens, et de travailler, de parler du cinéma, et de parler des gestes qu'on cherchait les uns et les autres à faire. Et je pense que ces échanges-là, qui étaient parfois des échanges d'opposition, des échanges d'écoles très différents et autres, c'est une richesse de ce lieu, et c'était lié au fait que celui qui était là, comme le référent, non pas le mage, mais comme là présent en acte aussi, c'était lui-même un créateur et qui acceptait de mettre en jeu son geste de créateur dans les échanges avec les débutants, les commençants. Moi, c'est des mots, effectivement, moi qui ne m'ont pas toujours paru. Et René, d'une certaine façon, les a employés presque pour défendre un peu l'idée du centre. Mais il ne parlait pas d'un commençant quand il parlait avec quelqu'un. Il parlait avec quelqu'un. Moi, je veux dire, moi, j'ai vu René découvrir Philippe Faucon, qui était quelqu'un de très timide, qui arrivait là comme ça avec ses premiers gestes et tout, à la limite, c'est lui qui a vu tout de suite que Philippe était quelqu'un d'extraordinairement complexe, qui portait quelque part tout un monde en lui. Je veux dire, on l'a vraiment vu. Et moi, il y avait des moments au début, je disais, mais Je ne le croyais pas. Moi, je n'avais pas les yeux de René de ce point de vue-là.
Et quel regard avait le CNC à l'époque sur cette activité? Donc, du coup,
là, je vais laisser Jacques répondre sur l'histoire.
Il y a deux époques, si tu veux. Il y a avant 81 et après 81. Après 81, il y a une petite période d'euphorie où là, on vient derrière.
Thérèse d'une grande.
On vient derrière, on finance, on accepte de donner quelques financements, quelques délégations des bourses grecques, quelques aides au court-métrage, une aide à la production, en fait, hein, plutôt de courts et éventuellement de moyens-métrages, qui devenaient moyens-métrages grâce à la gymnastique que l'on faisait avec les moyens qui nous étaient donnés. Ce n'étaient pas des financements de moyens-métrages. Donc là, il y a effectivement un certain nombre de financements qui arrivent et qui sont utilisés par le centre. Il y a très vite un hiatus parce qu'effectivement, on devient producteur.
Vous étiez une association.
C'est toujours une association. Mais on a un statut, sans être un statut, tout en étant un statut. On est à la fois une structure... presque de la décentralisation. On fait action d'éducation populaire dans le cinéma. Mais on est aussi... Mais c'est parce que René, il veut qu'on soit confronté au réel de la production cinématographique, du marché, pour aider effectivement aux jeunes réalisateurs à se confronter à la réalité du marché. C'est ça, l'idéologie de René. Et très vite... Les structures se démultiplient et on a quand même quelques petits problèmes avec la structure mère qui est le CMCC. Le CNC.
L'industrie cinématographique de Paris.
Bien qu'il nous ait quand même pas mal aidé au départ, via le ministère de la Culture.
Oui, parce que l'idée finalement quand même de René Alliot au départ, c'est bien d'échapper au centralisme parisien et de créer donc un centre en région pour donner un outil aux cinéastes, pour permettre à des cinéastes de la région de ne pas avoir à passer à Paris pour...
Certes, mais d'être néanmoins confronté à la réalité du marché. Et c'est là qu'on va être très vite en contradiction avec...
Alors justement,
le cinéma est une industrie.
Voilà. Quand il sent un projet, quand il est écrit, c'est de l'art. Quand il passe à Cannes, c'est toujours une œuvre artistique. Quand il fait 25 entrées, ou 50, ou même 250, là, c'est un produit industriel qui a très mal marché. C'est une faillite. C'est pas bien. C'est plus du tout une œuvre artistique, même si elle a été considérée comme telle quand on a présenté le projet, que les édiles ont accepté de financer ce film en lui reconnaissant des qualités artistiques.
Vous parlez de quoi exactement là? Quand tu parles de quoi?
D'un scénario, par exemple. Hein, on accepte de s'engager sur ce projet de film.
Prise de risque non tolérée.
Absolument. Et l'aventure du CMCC va subir justement de plein fouet.
Jacques, il faudrait juste que tu parles en face du micro, parce qu'il est très directionnel, ouais, je suis désolé.
D'accord. Va subir de plein fouet le contre-coup, après avoir travaillé pendant plusieurs années, justement aux colloques, aux rencontres, aux séminaires, avoir fait émerger tout un tas de jeunes cinéastes, parce que certains sont devenus vraiment des cinéastes. René, qui n'a jamais abandonné sa pratique, va s'engager dans un projet qui est né à Marseille, au CMCC, qui s'appelle le Matelot 512.
On est en quelle année, là?
Là, on est en 82. Enfin, le projet a commencé un petit peu avant, 82-83. Et il a réalisé auparavant leur esquisse, au sein du CMCC, un film qui gratifie tout le monde, que Marseille accueille plutôt bien.
Et Retour à Marseille aussi.
Retour à Marseille est très mal accueilli. Ça lui a valu que déboire avec Defer, mais Defer était très sport à l'époque, oui, puisque malgré, dans, malgré l'accueil difficile d'un film qu'il n'a pas vraiment supporté.
Oui, mais il y a un très très bel échange. Moi, je l'ai relu entre Gaston Defer et René Alliot sur cette question-là, où, oui. où on se dit en 85, moi je ne sais pas, moi j'ai... C'est très beau l'échange qu'il y a entre un homme politique et un homme qui est un artiste.
En 78.
Même s'ils sont en désaccord,
c'est, en 78, hein.
C'est beau ce dialogue.
Oui, oui, oui. Il a eu mal à Marseille. Ouais.
C'est ça.
Le languedocien. Ouais.
Moi, par rapport à cette question, je l'analyse aussi peut-être un peu avec le vécu que j'ai eu depuis. J'accepte l'idée que effectivement le regard que j'ai sur cette période-là est aussi marqué par. Moi, je pense que par rapport à la question de la décentralisation, je crois qu'il faut jamais oublier la structure très particulière du ministère de la Culture en France et la place du cinéma par rapport au ministère de la Culture. Il se trouve que le ministère de la Culture en lui-même a porté la question de la décentralisation théâtrale, musicale. Chorégraphique, à travers des structures, des habitudes, des conventions. Ce qu'évoquait Jacques, l'idée qu'un théâtre national qui monte, une grande production l'a fait valider, elle est validée, et si à la sortie de ça, elle est déficitaire, d'une certaine façon, le geste lui-même du financement public vient combler. Le déficit,
ça fait partie... En plus, dans ce cas-là, c'est le public qui n'a pas compris.
Oui, ça fait partie des habitudes, ça fait partie des structures et des habitudes. Le CNC n'est pas le ministère de la Culture. On pourrait dire qu'il est la direction du cinéma du ministère de la Culture. Au sein du ministère de la Culture, il n'y a pas de direction du cinéma. Au sein du ministère lui-même, le CNC est une structure créée pendant la guerre. Sous Vichy, c'est une structure corporatiste qui est, depuis le début, et qui a été refondée à la Libération avec la volonté à la Libération, la volonté des vainqueurs de la guerre, de refonder une structure paritaire, partenaire, mélangeant la fonction d'État et le privé avec... toute une série de mécanismes qui se sont petit à petit développés, complexifiés, avec des recettes qui ne sont plus simplement les recettes de la salle, mais qui sont devenues des recettes beaucoup plus complexes. Et c'est une structure paritaire qui essaye de redistribuer l'argent gagné trop pour arriver à permettre de développer le Festival de Cannes, développer des actions, développer le cinéma d'art et d'essai, développer et l'aide à la production, l'avance sur recettes, enfin toute une série de choses comme ça. Mais sauf que cette structure-là, elle n'y comprend rien à la décentralisation d'État. Elle ne sait pas ce que c'est. Même si certains des grands fonctionnaires du CNC viennent du ministère de la Culture. Mais en général, ils sont très peu nombreux. On les a retrouvés que beaucoup plus tard, dans les années 90, venant du ministère de la Culture, reprenant des positions à l'intérieur du CNC. Et d'une certaine façon, le CNC, son moteur, sa pensée, elle reste liée à l'industrie. Et elle reste liée à ce financement, avec des correctifs, avec l'idée de l'arrêt d'essai, avec l'idée de l'avance sur recette. Mais à la limite, ça ne va pas tellement plus loin en termes d'action culturelle. J'ai eu, il n'y a pas très très longtemps, je peux vous le dire, c'est il y a 3 ans, à un moment, je suis resté sidéré. J'avais en face de moi la directrice adjointe du CNC, qui on débattait sur un projet, un travail lié à l'école. Et on me disait, on avait... construit un cahier des charges où on parlait de la nécessité que des salles de cinéma qui sont engagées dans ce projet aient un projet d'action culturelle. On était là, projet d'action culturelle. Et un jour, elle me regarde comme ça, elle me dit « Mais c'est quoi l'action culturelle ?» Directrice adjointe du CNC, il y a à peu près 3-4 ans. C'est-à-dire que cette idée même de l'action culturelle, elle a un mal fou à se développer à l'intérieur de la pensée d'État du Centre national du cinéma. Et avant 81, la direction du CNC trouvait que ces aventures de décentralisation qui se faisaient au Havre, parce qu'elles ont existé un petit peu avant, les choses sont plus complexes, n'avaient pas d'intérêt. Qu'est-ce que c'est ces trucs qui viennent ça, en dehors de la production, ça ne prend pas les mêmes systèmes de financement, c'est pas dans le coup. Nous, on a déjà nos mécanismes. Ouais. Et après 81, on a dit, écoutez, Jack, il est venu, il a dit, on a tout compris, maintenant, pas de problème, on va y aller. Sauf qu'ils n'ont pas changé d'attitude.
D'accord. Mais pour dire, moi, avec mes mots, ce que je comprends, c'est que dans le cadre du projet que fait René Alliot de mettre en place ce CMCC, puis qui petit à petit, avec une densité d'expérience de vie, commence à se transformer rapidement, finalement, il y a une complexité qui se met en œuvre, puisqu'il y a des films, il y a des colloques, et qui finalement, moi je le comprends comme quelque chose qui échappe au cadre et aux logiques de financement, dont ceux du
CMCC. Oui, mais ça ne pose pas de problème, à la limite.
Non, mais
les colloques, les séminaires, pas de problème. Le problème va naître justement quand le CMCC va se mettre à intervenir sur le terrain de la production, réellement sur la production, qu'il va devenir propriétaire d'un certain fonds de négatifs, comme n'importe quel producteur. La volonté du CMC, des CNC, à un moment, c'est de dire « Vous allez devenir des producteurs ».
Soyez sérieux.
Il faut arrêter de jouer au Mickey. Vous allez devenir des producteurs.
Ça suffit, l'action culturelle.
Et pourquoi ça...
Et René va se faire piéger de première parce que l'affaire du matelot 512 dont on parlera tout à l'heure...
Donc on peut commencer à parler. Hein,
c'est dont on peut commencer à parler parce que c'est ce qui a entraîné voilà, la chute du CMCC. Ouais. C'est pas le financement du CNC qui est en cause. Le financement du CNC, c'est une avance de recette classique... qui vient, bon, au film a un succès, on n'a pas ce fonctionnement de l'avance sur recette. Mais il y avait besoin pour ce film d'un financement complémentaire. Il y a donc, avec l'aval de la région, un engagement auprès du Crédit Agricole pour apporter une partie des financements complémentaires qui permettent de financer ce film. Mais la structure se trouve être sous le chapeau du CNC. C'est-à-dire le CNC donne, en quelque sorte, une garantie à la banque.
Garantie bancaire.
Garantie bancaire. La région donne une garantie. C'est là que, tout à l'heure en aparté, je vous parlais de caca qui n'a pas été supporté. C'est bien de ça dont il s'agit. Le film a le destin qui arrive à un grand nombre de films tous les jours. On produit en France 272 films l'année dernière. Bon. Combien y en a-t-il qui se sont réellement financés
Et c'est ça qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, les films se produisent, l'argent est déjà...
Oui, mais c'est parce que les modes de financement sont complètement différents aussi. Donc là, si vous voulez... Là, on n'est plus tout à fait dans ce cas de figure. C'est-à-dire que là, l'argent qui est en cause, ce n'est pas celui qui est apporté par le CNCC comme il l'apporte à n'importe quelle structure professionnelle. C'est le risque qui a été pris par la structure auprès d'une structure bancaire garantie par René n'avait pas la volonté absolue de produire ce film avec le CMCC. Il voulait aussi éventuellement faire appel sur insistance du CNC de l'époque. On lui dit « Produit avec le CMCC ».
D'accord, on lui conseille de...
On lui conseille fortement.
Non, mais c'est, comme tu dis, c'est fait piéger.
On lui conseille fortement.
C'est le CNC, ça.
On lui conseille fortement de mettre le CMCC dans le coup de cette affaire.
C'est-à-dire
ce qu'il fait.
Ouais. Le film sort, le film est voilà. Un peu plus fragile que certains, il est en crise économique, et là, les garants perdent confiance.
Il n'y a
plus de garants.
Il devient l'abominable homme des chers.
Grosso modo, c'est fait un succès ou ne fait rien, quoi. Enfin, il fallait que ça marche. Il fallait que ça marche à tout prix.
Fait un succès et rembourse.
Il rembourse, surtout.
Oui, voilà,
rembourse sans nous en parler, surtout.
Rembourse une aide publique qui n'existe pas non plus en termes de subvention. C'est « je te garantis ton emprunt ».
Voilà, c'est une garantie.
Ah oui, donc c'était même pas un gros engagement.
Mais non. Et non.
Mais alors comment...
Donc, très vite, il y a une espèce de cabale qui va partir, et aussi à l'intérieur du CMCC, hein, et dans d'autres structures. Comment René, il a utilisé les fonds du CMCC pour faire son cinéma pour faire...
Oui, parce que quand on parle du CMCC, moi, la première fois que
et j'ai entendu parler... Et d'un seul coup, toute l'action qu'il avait menée, justement, pour favoriser...
L'action
pour
culturelle... Plus rien n'existait.
Disparu.
Mais c'est là que je ne comprends pas. Pourquoi disparu ? C'est-à-dire qu'on a tout mis sur le dos de René, tout. Ce qui permettait de cacher tout le reste.
Voilà.
D'accord. Absolument.
Mais la volonté que ça disparaisse, du coup, c'est, ça part d'où ?
Bah, ça part de... Surtout sur le plan politique. À l'époque, on est en plein dans bouleversement. Et là, on est en 84, 83, 84. Il y a un certain basculement au niveau de la région.
C'est-à-dire et Pesé n'est plus le président de la région, et c'est un certain Jean-Claude Coudert qui devient président de la région.
En même temps, passe d'un endroit à un autre, ça.
En même temps, il y a une espèce d'entente tacite. On étouffe.
Il y a une entente.
On étouffe.
Mais le CNC ne soutient plus.
Le CNC ne soutient plus. La région ne soutient plus. La région met une chape de plomb dessus.
Et pourquoi le CNC ne soutient plus ?
C'est comme il expliquait, c'est la logique du CNC qui est une industrie, il n'y a pas de rentabilité.
Non, puis en même temps, à cette époque-là, ils commencent à retirer leur bille de toutes les structures
décentralisées. La croyance dans la décentralisation, elle devient vite éphémère.
Est-ce que c'est pas ça, justement ? Est-ce que c'est pas ça la raison ? C'est-à-dire de vouloir sucrer au plus vite les structures de décentralisation.
Mais ça veut dire que
ça n'avait rien à voir dans cette affaire, si tu veux. Là, bien sûr que ça a servi de prétexte. Mais
quel est le truc de fond, alors ? Parce que
parce qu'il y a un truc, enfin, je ne sais pas, Jacques doit, on peut le dire plus précisément. Il y a effectivement une chape de plomb, il y a un étouffement, et il y a en même temps la mise en place d'un plan de sauvetage pour que la dette soit remboursée. D'accord. Parce que la dette, elle a été remboursée. Ce n'est pas le Crédit Agricole qui en a été de sa poche.
Alors, elle a été remboursée. Je vais vous expliquer comment. C'est-à-dire qu'on a continué à accorder les subventions de fonctionnement à une structure qu'on avait fermée.
Voilà. Okay. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a une chape de
plomb. On a fermé la structure. On a fermé la clé. Clac, clac, clac.
Sauf que les subventions ont existé.
On a mis tout le matériel dans les mains du parc régional de matériel, qui, lui, devenait bienfaiteur, bien sûr, auprès de tous ceux qui éventuellement souhaitaient utiliser du matériel, des projecteurs, des salles, etc., moyennant quelques petits subsides, grâce aussi à Thérèse,
qui a essayé de maintenir coûte que
ils ont embauché Thérèse en plus. Voilà. Comme...
Mais moi, je pense quand même que le fond du problème, en dehors du fait que l'événement lui-même fait que il n'y a pas de détournement de fric. L'argent a été remboursé, si tu veux, d'une certaine façon. Et que l'idée, ça a été de dire, surtout, on arrête pour que ça, surtout, ça redémarre pas. Parce qu'à la limite, on aurait très bien pu se dire, bon, ben, on le met en sommeil pendant 3 ans, et puis ça repart.
Mais même pas, Jean-Pierre. Le problème n'est pas là. Si on croit, disons, à l'action que mène cette structure. Si on la défend, si on l'a défendue, si on y croit, on peut estimer que le directeur de la structure n'a pas respecté le cahier des charges.
Oui, on le licencie.
Le directeur du théâtre, non, c'est même pas un licencié. Oui. On lui renouvelle pas son contrat. Ce que René aurait très bien accepté.
Oui. C'est-à-dire qu'on a attaqué l'artiste, en fait.
Et on en nomme un autre. Et puis voilà. On en met un autre à votre place. Ça arrive dans tous les centres dramatiques, tous les jours, on fait ça. Mais on ne ferme pas le centre dramatique.
Alors, la difficulté, Jacques Allaire, c'est que quels sont les moyens de défense du CMCC à ce moment-là ?
Aucun.
Parce qu'il est quand même... Donc, c'est un centre reconnu, vous le disiez tout à l'heure,
etc. Ça veut dire, effectivement, s'il y avait eu une volonté commune, au sens où vient de le dire Jacques, et de l'État et de la région, de dire on est devant un problème, éventuellement on change de directeur... Éventuellement, mais l'aventure et ce qu'a prouvé cet atelier, ce lieu de création, doit continuer parce qu'effectivement, il a prouvé qu'il avait une formidable efficacité par rapport à tous les enjeux et tous les objectifs de départ. Je veux dire que ça aurait pu être un choix. Ça a été un choix plutôt. On éteint, on paye et on ferme. Mais l'idée, on éteint, on paye et on ferme, a été prise effectivement avec aussi bien la volonté de la région que la volonté du CNC. Je ne
peut pas témoigner exactement de la position de la région. Et il faudrait interviewer à ce moment-là ceux qui ont porté à cette époque-là très concrètement la position de la région. Je pense en particulier à quelqu'un comme Richard Patatu qui était là chargé de...
C'est pas lui qui peut dire ça.
Non, mais qui peut témoigner de cette histoire-là, parce qu'il l'a vécu. Moi, ce que je peux témoigner, c'est qu'effectivement, le CNC ne voulait pas que ça continue. Ça, je peux en témoigner.
Et pourquoi ?
Personnellement. Au sens où on vient de le dire.
D'accord.
Quelque part, c'est une aventure qui brouille les cartes, qui a montré peut-être... Oui, d'accord, mais ça suffit, arrêtons de jouer. Et quelque part, où ça devient très sérieux, et à ce moment-là, on le voit bien ce qui s'est développé après. Hein ? Qu'est-ce que c'est la suite de ça ? C'est finalement, on enlève la responsabilité artistique, on enlève le travail de pensée et de création, et on fabrique quoi ? Des fonds de soutien. Et on met du fric, et on devient, et on, la décentralisation, ça devient des fonds de soutien qui sont faits par les régions et qui aujourd'hui amènent de l'argent à l'industrie du cinéma en complément de ce qui a été éliminé par la télévision. Mais je veux dire, c'est ça, le devenir actuel. On a préféré développer des structures de cet ordre-là plutôt que de se rendre compte que là, on avait des outils qui étaient à la fois des outils de formation, des outils d'invention, des outils de multiplication, de faire arriver des créateurs. Je veux dire, on aurait continué l'aventure de 5 ou 6 ateliers à travers la France. Le crack du Nord a un peu repris cette démarche-là d'une certaine façon. Mais je veux dire que le cinéma français en serait changé.
Mais les cinéastes qui sont passés là dans les colloques, les séminaires, ou ceux qui étaient là pour faire leurs films, ils n'ont pas essayé de défendre leur outil ?
Non. Non.
On est très peu à l'avoir défendu.
Je crois qu'ils
se sont,
ils ont été piégés par la rumeur.
Ouais. Par la rumeur. C'est dangereux, la rumeur. Ouais.
Il y avait une sorte de calomnie. Non,
moi, je peux te dire que j'ai mis en jeu ma démission à ce moment-là, à l'intérieur de ça, et j'ai refusé de démissionner. Et on m'a obligé de démissionner une nuit en me disant « Tu démissionnes ou sinon René va en prison ».
Mais qui t'a obligé ?
Le CNC.
Et sous quel argument ?
Le responsable, celui qui suivait le dossier du CNC, en disant ce qu'on vient de dire. Il faut que ça s'arrête. Et ça s'arrête et que ça ne peut pas se reproduire. Donc il y avait les deux choses à la fois. Il faut que ça s'arrête. OK, il y a un problème. Comme nous dit Jacques, à la limite, ça se règle, un problème, on le travaille. Mais il faut que ça s'arrête parce que, quelque part, ça ne peut plus exister. Ça veut dire que, fondamentalement, l'hypothèse que René a posée, et qui était parfaitement écrite dans son texte, de la nécessité de lieux qui deviennent des lieux d'invention, qui deviennent des lieux de rencontre, qui deviennent des lieux d'échange, et où la force de la pensée de réalisateurs qui sont en plein dans leur travail... René n'a jamais arrêté de son travail de créateur. On était là, on le sentait au milieu de ça, on le voyait travailler. Moi, je l'ai vu dessiner les maquettes du Matelot 512, si tu veux. Ça faisait partie de ma formation, de passer des moments comme ça à parler avec René des maquettes qu'il était en train de dessiner. Et je veux dire, c'est cette aventure-là qui, à mon avis, n'a pas été comprise et qui manque profondément aujourd'hui dans le paysage de...
Mais c'est parce que ça brouillait les cartes de la concurrence ?
Non, c'est parce que ça ne vient pas sur les territoires, sur les systèmes du centre.
Ceci dit, pour le CNC, il y a quand même aussi une petite cabale qui commence à naître dans la mesure où il y a à Paris et autour un certain nombre de gens qui commencent à s'interroger sur ces fonds qui sont consacrés et qui peuvent plutôt être apportés au film.
En gros, c'est du détournement de fric.
L'action
CNC,
culturelle,
quoi.
C'est bien gentil, mais bon, on a déjà l'avance sur recette, on a déjà quelques fonds de l'aide au court-métrage. Bon, arrêtez vos conneries.
Absolument. Oui, donc la mission elle-même du CMCC n'est absolument pas... Enfin, elle est comprise sans l'être, en fait.
Elle n'est pas comprise.
Ouais.
Je crois que, justement, c'est parce qu'elle est comprise qu'elle représente effectivement un gros problème.
Oui, d'après toi, Jacques, elle est
non, mais il a raison, Jacques. Je pense qu'effectivement, la dimension de ce que ça pouvait devenir et ce que ça a été en 3 ans, de faire sortir ce qu'a fait sortir... ce travail-là en 3 ans, c'est de dire, attends, il faut faire face à ça.
Ouais, merde, ça vient...
Il faut accompagner ça.
On est en dehors de Paris, ça émerge de là, qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce que c'est que ces structures qui fait venir des gens d'Égypte, des gens d'Espagne, tous les cinéastes de la Méditerranée qui viennent là, qui viennent montrer leurs films, qui discutent avec les historiens les plus importants du temps. qui ont des parrainages d'un peu partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y avait plus de contrôle de cette affaire. Si cette affaire est menée et assumée par le ministère, alléluia. Mais là, non.
Et il y a eu un bilan de cette histoire?
Ben, un bilan, oui. Le bilan, c'est le bilan qu'a fait René, qui est le bilan nécrologique de l'affaire.
Qui a un très beau texte aussi. Et...
Quel bilan nécrologique? Bon, ben, il me semble que...
Tu peux nous donner quelques...
Le bilan, je ne sais pas si tu l'as là.
Mais je vais vous lire la lettre.
Oui.
Ah, c'est le mieux.
Qu'il fait pour conclure, hein, qui a présenté, après avoir présenté l'ensemble des films, l'action qui a été menée pendant ces 4 années.
Donc c'est une lettre qui date de quand?
Une lettre qui date de 84. La clôture, 83, 84. C'est la lettre à Jacques Lang, la lettre au président, à la région, voilà. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration, il m'a semblé nécessaire de compléter le bilan d'activité qui vous a été remis par quelques précisions que je crois utiles. Les voici. Je n'avais nullement l'intention à l'origine de faire du CMCC le producteur responsable de la production du Matelot 512. Le CMCC ne devait en être que le coproducteur, ce sont les ateliers du Sud que nous avions prévus comme producteurs délégués et qui ont signé les premiers contrats. C'est sur la demande expresse du Centre national de la cinématographie que le CMCC a finalement assumé le rôle de producteur délégué. Les premiers contrats ont été modifiés en conséquence et les contrats ultérieurs signés par le CMCC. Je ne dois pas mon statut personnel dans la production cinématographique française au fait que je dirige le CMCC. Je le dois à mes films. J'ai réalisé le premier en 1962. Nous sommes en 84. Lorsque j'ai proposé la création du CMCC aux partenaires qui ont permis son existence, le ministère de la Culture, mais d'abord le conseil régional PACA, j'en ai exposé clairement les objectifs, ce que rappelle notre bilan, au nombre desquels comptait la production de films dans notre région. Le Matelot 512 ne s'est pas présenté comme un projet qui aurait intéressé seulement le CMCC et son directeur qui aurait été engagé à tout prix dans des conditions égoïstes et suicidaires. Il a intéressé tous les partenaires que l'on trouve normalement réunis dans le financement d'un film de réalisateur français, le CNC avec une avance sur recette, un distributeur, AMLF, avec un avaloir, une chaîne de télévision entrant en coproduction, FR3, des partenaires coproducteurs, ici un organisme financier, le Crédit Agricole, entrant en coproduction, des acheteurs étrangers. Tous ces partenaires se sont engagés aux côtés du CMCC sur le jugement qu'ils portaient sur le projet et ont participé à son financement. De même, le ministère de la Culture, comme il l'a fait sur des films de Bresson, de Rivette, de Peter Brook ou de Youssef Chahine. La production d'un film de long métrage a toujours des retombées positives dans le lieu où le film est réalisé. Dans le cas du Matelot 512, la part des dépenses de tournage engagées dans notre région, techniciens, acteurs, figurants, fournisseurs, locations, séjours, atteint un montant de 4 521 000 francs à l'époque. Mais les retombées qui répondaient aux objectifs plus proprement artistiques et culturels du CMCC ne sont pas moins importants. Emploi d'une 40aine d'acteurs et d'une 50aine de techniciens, divers, tous originaires de la région. Promotion d'un atelier de décor et de son animateur, les ateliers du Petit Chantier de Bernard Veza, qui signait son premier décor de cinéma comme créateur et non comme simple constructeur. Ils sont engagés aujourd'hui sur le film de Claude Berry, en cours de tournage en Provence. Emploi d'une 12aine de jeunes stagiaires, la mise en scène, la régie, la décoration, le son, les costumes. Promotion enfin de la région elle-même, non seulement dans ses capacités à fournir des collaborateurs, mais aussi des lieux, des espaces, des possibilités encore plus variées et ouvertes que celles déjà convenues dans la dramaturgie marseillaise. Cependant, l'exploitation commerciale du Matelot 512 a été un échec, et cet échec est à l'origine des difficultés que rencontre aujourd'hui le CMCC. Il compte aussi les erreurs d'estimation du coût du film qui ont été faites à l'origine, même si beaucoup de films ont été victimes aussi de l'accélération des coûts de production récents, et même si j'ai pris soin, pour assurer la gestion du film, d'engager un producteur exécutif. J'en porte néanmoins la responsabilité. Il est difficile de démêler aujourd'hui les raisons qui ont conduit cette année tant de films français et si divers à des échecs et des difficultés semblables. Ceux de Gérard Houry, de Jean Yann, de William Glenn, de Jacques Demy, de Youssef Chahine, pour n'en citer que quelques-uns. Leurs qualités artistiques ne sont pas d'abord en question, pas plus que celles du Matos 512 qui en a et que je revendique. Dans le contexte dont je viens de parler et qui a motivé cette mise au point, c'est l'activité tout entière du CMCC qui pourrait être oblitérée. À Font-Blanche, dès 1980, c'est une réflexion sur la création cinématographique dans notre région qui a été engagée avec les rencontres de Font-Blanche, auxquelles ont participé non seulement des cinéastes régionaux, mais aussi des cinéastes reconnus et des critiques venus de tous les horizons de France et de l'étranger, et de tout le pourtour méditerranéen. Elle a débouché sur une pratique de cette création dans la région. C'est celle que le CMCC a défendue et aidée. Il l'a fait avec ou sans moyens, selon les films et le marché, dans tous les cas de figure possibles de sa participation, mais il l'a fait. Les jeunes cinéastes ou techniciens, hommes, femmes, ont toujours trouvé notre porte ouverte, notre appui, notre aide, chaque fois qu'elle était si peu que ce soit possible. Ils ont presque tous passé par Font-Blanche et ont pratiquement tous utilisé ses locaux, ses services, son matériel. En 4 années, nous avons aidé et coproduit une 50aine de films, 38 courts-métrages, une 10aine de moyens-métrages, une 10aine de longs-métrages, comme l'attestent les contrats afférents à chacun de ces films qu'on trouvera dans nos archives. Bien entendu, ces films sont de valeur et d'impact inégaux. Comment pourrait-il en être autrement? Il me semble que c'est en se retournant vers le passé, et si l'on examine par tranche de 4 années, ce qu'a été ici la production de films et la place des essais et des créations de jeunes cinéastes avant 1980, que l'on peut mesurer le mieux qu'a été l'apport du CMCC dans la vie artistique, culturelle de la région. Apport que je revendique et dont je tire fierté. René Alliot.
Merci Jacques pour ce témoignage. Je crois que c'est un témoignage extrêmement important. On le disait, pourquoi notre intérêt à nous de faire cette émission, c'est de pouvoir entendre cela, et ce qui est vraiment très 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 important pour nous. Laurent, tu voulais ajouter quelque chose à la suite
On a encore un peu le temps,
oui,
je pense.
Oui, tout à fait.
Jean-Pierre, je voulais te poser une question. Parce que si on fait ce travail, c'est parce qu'on avait échangé quelques mails autour du CMCC, parce qu'on avait commencé à faire cette émission en septembre, c'était sur Marseille, et on avait évoqué le CMCC. Et donc, tu nous avais envoyé un mail pour dire, à partir d'un document, il y a quelques points que tu avais envie de développer. Et c'est comme ça qu'on est venu aussi à faire ce travail. Et tu parlais de la contradiction entre action publique, action culturelle et marché. Et je ne sais pas si tu as des choses...
Je crois que dans l'histoire qu'on vient d'essayer de raconter à plusieurs voix, la façon dont la question précise du matelot 512... Et je pense qu'effectivement, cette articulation entre action culturelle et volonté d'inscrire une démarche sur le marché en disant... En gros, c'est le marché qui sera le jugement. Je pense qu'il y avait effectivement dans cette aventure-là du CMCC le vouloir jouer ces deux-là. Moi, je pense que dans le pays dans lequel on vit, dans les structures qui existent, aussi bien de l'action culturelle, ministère de la culture ou des collectivités locales, l'articulation entre l'action culturelle et l'industrie et le commerce sont des articulations extrêmement difficiles. Le Centre national du cinéma a développé une certaine articulation de cet ordre. Il la développe, mais d'une certaine façon, au détriment de l'action culturelle. Je veux dire, la question réelle d'une action publique déficitaire, nécessitant... L'arrivée d'un financement public qui vient combler des déficits obligatoires de l'action culturelle. Il n'y a pas un théâtre qui sera en pur équilibre. Il n'y a pas un musée qui peut être en pur équilibre. Il n'y a pas une école qui peut être en pur équilibre. Et donc cette idée que l'action culturelle nécessite l'intervention publique en termes de combler les déficits, encourager l'innovation, développer. Et je pense que vouloir essayer de tenir les deux bouts, un petit peu comme, à mon avis, René cherchait à nous entraîner dans ce sens-là, Personnellement, je pense que ça fait partie d'une contradiction qu'il faudrait continuer à travailler.
Et est-ce qu'aujourd'hui, avec il y a les nouveaux outils numériques qui rendent quand même la création plus accessible, et où on se dit peut-être qu'un cinéma hors de l'industrie peut exister, est-ce que ce n'est pas remis en jeu ?
La question, ce n'est pas un cinéma, chercher à tout prix un cinéma hors de l'industrie pour le plaisir d'être hors de l'industrie. C'est d'essayer de comprendre que le mouvement de développement de la création cinématographique ou de la création audiovisuelle, enfin moi je veux dire, je ne fais pas une je délimite pas les choses en tranches, je ne mets pas les choses en tranches. Je veux dire que ce mouvement-là, dans notre pays, nécessite une intervention publique. Ce n'est pas purement un objet, ce n'est pas simplement un secteur marchand. Et qu'à partir du moment où ce n'est pas qu'un secteur marchand, et où le fait qu'il faut créer des endroits où d'un coup ça se met à se développer, que le fait de relier ça avec des salles, pourquoi on n'a pas eu de relation avec les salles ? C'est parce que les salles sont enfermées dans un schéma purement économique. Même les salles d'arrêt d'essai, majoritairement en France, les salles d'arrêt d'essai sont des salles qui revendiquent leur équilibre économique, même si d'une certaine façon, il y a des subventions qui viennent. Mais ça veut dire que la question de l'intervention de l'argent public dans le cinéma au nom de l'action culturelle est une question qui n'est pas clairement posée.
Alors, Jean-Pierre, on en est où en ce moment, en région PACA, à ce niveau-là, de l'argent dédié au cinéma ?
On voit bien que ce qui s'est développé, c'est effectivement de l'argent public qui, à travers des fonds de soutien, vont vers des réalisations. À travers simplement, je vois un dossier, je te donne de l'argent et va faire ton film. Ce qui était magnifique dans le projet du CMCC, c'était que pas simplement, je te donne de l'argent, va faire ton film. C'est cette espèce du lieu où il y avait effectivement des
outils. Surtout qu'on est de plus en plus, va faire ton téléfilm en plus.
Et puis en plus, va faire ton téléfilm. Et ça veut dire que ces fonds se sont petit à petit orientés pour être le plus possible adaptés et s'articuler avec les financements tels qu'ils sont dans la production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de fonds de soutien qui viennent sur des films qui ont par ailleurs les critères de l'industrie. L'intervention purement innovante sur des projets se diminue aujourd'hui dans les fonds de soutien, d'après les informations que j'ai. L'intervention sur le documentaire de création diminue. L'intervention. Et c'est vrai qu'on voit naître toute une production indépendante, au sens où René le disait, dans les marges aujourd'hui de l'industrie. Les marges.
D'autant que la production de films est énorme. Enfin, on va dire, il y a beaucoup de films qui se font de cinéastes indépendants, qui se diffusent.
Cinéastes indépendants.
Indépendants en tous les cas, qui arrivent à faire leurs films malgré tout, malgré le manque d'économie, malgré le manque de moyens, qui sont diffusés dans les festivals. Et que par ailleurs, ces artistes-là ne sont pas soutenus.
Mais Marseille 2013 va nous sauver.
Non, on ne dit pas n'importe quoi.
T'as entendu, Laurent ? On ne dit pas n'importe quoi.
Moi, pour aller un peu polémique, si je dis aujourd'hui, quel est l'endroit où, d'une certaine façon, l'état d'esprit, peut-être que je vais faire bondir Jacques et Thérèse, mais l'état d'esprit de cette espèce de lieu où, dans le fond, ça se met à se confronter, réfléchir, penser et tout, c'est le polygone étoilé. Il n'y a que là. Et vous savez qui est en ce moment en résidence au polygone étoilé ?
Jacques
Rogier est en train de pouvoir essayer de terminer les deux chefs-d'œuvre qu'il a engagés. Et en secret à l'intérieur, grâce à quoi ? Grâce à ce lieu qui n'a pas les moyens aujourd'hui de reconnaissance et qui a un mal fou à faire exister sa démarche. Mmh. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le polygone ? Il y a effectivement cette idée qui a développé la question du public que n'avait pas, à mon avis, pris en compte suffisamment le travail de Fontblanche. Mais Fontblanche était un petit peu loin pour pouvoir amener des gens. Là, il est au centre, il arrive à... Il y a une vraie salle et cette salle, elle existe aussi bien en diffusion qu'en... Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a les ateliers, il y a la salle de montage, il y a l'endroit où on mange, il y a l'endroit où on rencontre, et ça ne s'arrête pas de mélanger des gens les uns avec les autres. Et il y a effectivement au cœur quelqu'un qui porte un projet artistique, qu'on pense ce qu'on veut de sa manière de le porter, mais qui est fort, qui est Jean-François Néplaz, c'est clair.
Mais c'est bien que tu nous emmènes là, parce qu'on arrive vers la fin de l'émission, Et nous, cette histoire de faire ressortir le CMCC avec vous et toute cette histoire, il y a la question qu'on est des cinéastes, qu'on galère à faire nos films, mais bon, on s'amuse bien quand même. Et que c'est que ça.
Oui, mais on crève la dalle, hein, quand même, il faut le dire.
Ça, c'est que de toute façon, la question de. Tu disais à un moment, vivre du cinéma en région, je pense que c'est une question qu'on va se reposer. Mais voilà, nous, je pense qu'on va continuer ce travail autour du CMCC de plein de manières différentes et on verra. Où les longues soirées de discussion avec Thérèse nous emmèneront.
Je vais reprendre juste trois. Si tu prends trois lieux aujourd'hui où il y a, à la limite de l'invention, de quelque chose qui se développe autour du cinéma, je dis le polygone étoilé, je dis les fonds de soutien, c'est-à-dire les endroits administratifs où on sort de l'argent sur des projets et où, petit à petit, c'est plutôt le formatage, en tous les cas, l'industrie du cinéma qui en bénéficie, où il y a un formidable atelier aussi qui fait vivre beaucoup de monde, si tu veux, qui est les plateaux de Et plus belle la vie.
Oui,
bon, voilà, c'est ça, les trois aujourd'hui, exemples de ce que c'est aujourd'hui la vie. Et qu'est-ce que ça donne les uns et les autres en termes de travail cinématographique? Il faut regarder ce que ça produit.
Ouais, ce que ça produit. Mais pour reprendre, oui, parce que nous, je pense qu'on a envie de continuer cette réflexion. Et justement, comme tu dis, l'histoire du polygone étoilé, pour nous, c'était nécessaire de connaître l'histoire du CMCC parce que vu qu'on a travaillé au polygone, on fait des choses avec et qu'on a envie de comprendre comment cette question du polygone s'actualise avec cette histoire du CMCC, à la fois dans comment ça s'est fabriqué, mais à la fois aussi par rapport dans son rapport à la région, dans son rapport au CMC. Quel chemin a été fait? Qu'est-ce qui a changé?
Ce qui fait que les deux démarches peuvent non pas s'identifier, se comparer, c'est cette idée que les deux démarches partent d'une volonté à un moment d'un créateur. C'est cette idée qu'à un moment, c'est le créateur qui pense à un moment le lieu et qui se dit, là, on peut, dans une confrontation, dans une existence, et qu'à mon avis, les lieux pourraient être multipliés et ne pas se ressembler les uns les autres. Mais cette idée de la nécessité de la présence d'un créateur et pas d'un administrateur et pas d'un gestionnaire, parce que finalement, c'est le grand cri de colère qu'avait poussé en 1965 Roger Planchon au Festival d'Avignon, dans les grands colloques que Jean Villard a développés à cette époque-là, le pouvoir au créateur. Il avait commencé à voir effectivement naître l'arrivée dans les grandes structures culturelles, dans les grands festivals, de gens qui sont effectivement des administrateurs.
Ouais, sauf que 30 ans après, effectivement, c'est la même question qui se pose, c'est-à-dire qu'on ne veut pas entendre parler de gens qui créent à cet endroit-là.
Absolument.
Il y a juste une petite parenthèse, mais en même temps qui n'en est peut-être pas une, c'est qu'il y a aussi, tous les trois, vous avez en tout cas deux au moins, une histoire avec Fernand Deligny. Et c'est vrai que tous les trois, et qu'aujourd'hui, les écrits et la pensée sur le cinéma de Fernand Deligny touchent beaucoup de cinéastes. Enfin, au Polygone, ça travaille sur les lignes d'air, etc. Et on en rencontre de plus en plus. Du coup, je ne sais pas si c'est un hasard ou si...
Les lignes d'air font travailler beaucoup de monde en ce moment.
Je pense que ce n'est pas un hasard. En tous les cas, cette espèce de filiation qui s'est passée, c'est Jacques qui me fait ce c'est pas un cadeau, c'est plus qu'un cadeau, c'est cette espèce d'ouverture qui a modifié ma vie, si tu veux, et puis après cette espèce d'aventure qui s'est faite à partir de René. Le moindre geste au milieu dans nos échanges a toujours existé, aussi bien dans mes échanges avec René que c'est clair, mais je pense que dans la pensée de Deligny sur le cinéma, il faudrait effectivement y regarder de plus près, si tu veux, mais je pense qu'il y a quelque chose de la façon dont Deligny a posé la question de l'image et de l'image qui ne dit rien, de l'image qui n'est pas simplement de l'audiovisuel et qui est beaucoup plus complexe par rapport dans son rapport à la
mémoire
de la parole, mémoire d'espèce,
les traces,
l'origine, l'image est d'origine animale. Je veux dire, bon, ces choses-là, c'est clair que les images sauvages et tout ça, on se rend bien compte qu'il y a des articulations à avoir entre cette pensée-là.
Ça a été simple la façon dont il a questionné, dont il a réglé la question du travail avec les institutions. Ce qui est assez Deligny. Ouais, simple, c'est
simple. Radical.
Radical. Oui. Plutôt que simple.
Mais en même temps, ça n'a jamais été. C'est pas des lieux. Ça n'a jamais été des lieux institutionnels, enfin, surtout pas. Enfin, bon, ça, c'est Jacques qui a vraiment vécu jusqu'au
Jacques, bout. Avant de terminer, est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose?
Il nous reste quelques minutes.
Ça n'a jamais été des lieux institutionnels, mais il a toujours fallu des rencontres avec des pirates de l'institution qui connaissent les chemins de traverse et les dérives. Bon, tout ça perdure.
Alors vous, à la limite, pourquoi pas poser cette question par rapport à Alio ? Peut-être effectivement.
Alio était un pirate un peu.
Oui, mais c'est vrai.
Pas vraiment.
C'est vrai que d'une certaine façon, il aurait eu besoin de plus de pirates. Moi, je vois par exemple quelqu'un qui est à côté d'Armand Gatti, qui est aussi quelqu'un d'absolument solaire, qui est à côté de lui, Jean-Jacques Ocard, si tu veux. Ça fait partie de ces pirates qui savent parfaitement débroussailler, si tu veux, mais qui ne prennent pas la place du créateur. Qui savent parfaitement où est l'essentiel de la démarche. Elle est effectivement dans l'écriture ou dans la pensée ou dans la... Même si on revenait de façon très intéressante en regardant un film comme Le Matelot 512 sur son histoire même de création, comment il est né et comment petit à petit il est devenu cette espèce d'objet qui finalement échoue, alors qu'au départ il était inventé sur un terrain de la bande dessinée, d'une invention, hein, Jacques. Le premier texte qui arrive, c'est une espèce de texte. Une calligraphie avec des photos.
Chers amis, je vais bientôt être obligé de vous interrompre.
On y reviendra.
Mais en tous les cas, ça continuera. Moi, je voudrais, avant la fin de l'émission, quand même dire un grand merci de la part de nous trois, aussi à Thérèse Consolo, qui a été bien tranquille pendant que nos deux compères.
C'est dur entre ces deux
mais
hommes,
en tous les cas, juste redire que sans Thérèse Consolo, on n'en serait pas là dans cette enquête d'un cinéma autour du CMCC qu'on n'a pas fini d'avancer.
Non, mais il faudrait toute une émission pour parler de ça. Alors moi, je veux simplement terminer sur le polygone étoilé, parce que Fabrice, je lui ai dit non quand il m'a contacté. Non, je ne veux plus répondre sur le CMCC. J'ai accepté de venir au polygone, et c'est quand j'ai vu le polygone qui m'a rappelé plein de choses, bien sûr en plus petit, on va dire, que j'ai accepté de continuer avec vous. Voilà. Mais la salle de montage, quand je suis rentrée dans la salle de montage, c'est vrai que ça m'a rappelé beaucoup, beaucoup de belles choses.
Bientôt, le polygone sera ici pour
voilà.
une émission.
Et je voulais simplement rajouter un truc sur les rencontres avec de fond blanche. C'est que tout à l'heure, vous demandiez combien de jours. Les premiers participants arrivaient le jeudi après-midi. Tout le monde repartait le dimanche matin. Et pendant ces trois journées et demie, on va dire, presque quatre journées, même quand ils avaient fini, quand ils sortaient des débats, les discussions continuaient. On ne parlait pas de la pluie et du beau temps quand on était après dans les jardins en attendant d'aller déjeuner. On était là et on continuait à échanger. Et en plus, ils étaient logés sur place puisqu'ils étaient logés à Vitrolles. Donc, d'une certaine façon, ils étaient un peu prisonniers de fond blanche, quoi. Et c'est ça que je voulais rajouter. Voilà.
Merci Thérèse, merci beaucoup. Merci à vous trois, merci Jacques Allaire, merci Jean-Pierre Daniel. Et puis on va écouter justement pour terminer un petit extrait de On ne voit pas le temps passer de Jean Ferrat. Et bah écoutez,
et puis le changement c'est maintenant.
Et puis le changement c'est maintenant, exactement. Enfin bon.
Et la semaine, le mois prochain, ça sera avec les cinéastes de Fond Blanche, dont Alain Huchtot, sûrement Jean-Pierre Daniel, Catherine Guerlédier et d'autres personnes.
Merci à
Bonsoir.
Tous.
Qui vous occupe vos journées ? Entre les courses, la vaisselle, entre ménage et déjeuner, le monde peut battre de l'aile, on n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer ? Faut-il en rire ? Fait-elle en dire bien ?